Salut Luc.
Allô.
Réaction au propos de M. Berube?
Ben, c'est extrêmement intéressant. Tu sais, il n'y a pas toujours une distanciation entre les fonctionnaires et l'État en temps de crise. Bon, attends, normalement, il y a une distanciation. Normalement, lorsque, par exemple, il y a un projet de loi, le cabinet va demander aux fonctionnaires « écrivez-moi un projet de loi ». Et là, après ça, ils vont le modifier, eux, le cabinet va modifier le projet de loi. Ils vont le resoumettre aux fonctionnaires, puis ils vont dire, les fonctionnaires vont donner un avis sur les modifications. Ouais. Oui, c'est correct, c'est pas correct. Non, je pense que ça, c'est dangereux. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, ça contredit ce qu'on avait fait il y a 2 ans, etc., etc. Et là, il y a des traces écrites de l'ensemble de cette démarche-là. À la ville, ça s'appelle des sommaires décisionnels. Et au gouvernement, je ne sais pas le nom que ça porte, mais le sommaire décisionnel, il est officiellement envoyé à chacune des directions, et chacune des directions note ces réticences par écrit. Et ces réticences-là, des fois, ils tiennent à ce qu'elles soient connues du public. Donc, des fois, même lorsque le maire dépose un document, dans le document, il est écrit « On va faire ça, oui, mais les fonctionnaires trouvent que ce n'est pas une bonne idée. » C'est écrit des fois. Ça arrive, je l'ai vu, moi. J'ai vu ça écrit. Là, ça, c'est une situation. Après, dans les situations de crise, mettons, on va prendre le printemps érable. Des grosses manifestations tous les jours. M. Coderre est assis avec le chef de la police à côté de lui, M. Parent. Les décisions se prennent rapidement, mais il y a au moins les minutes de la rencontre. Donc, lors des rencontres, tout est écrit. Parce que des fois, on 3 jours après, on se dit, c'est quoi qu'on avait dit déjà dans cette situation-là? Ben là, tu sors les minutes, puis tu dis, ben, même la police a dit que ça, et puis les fonctionnaires ont dit ça, puis finalement, on a décidé ça. Alors ça existe. Il y a des documents quelque part qui sont écrits. C'est pas vrai qu'il n'y a pas un seul compte-rendu de rencontre pour une décision comme celle-là.
C'est possible. Tu sais, tout ce que tu dis là est vrai, mais par ailleurs, ce qu'on voit se profiler dans cette crise-là là, depuis 6 mois, c'est à quel point le gouvernement du Québec a de la misère avec les données. Avoir des chiffres, avoir des statistiques, puis baser des décisions qui soient lucides là-dessus. On avait de la misère avant la pandémie, puis là, on réalise qu'on a beaucoup de misère pendant la pandémie. Moi, j'ai pas de misère à penser que ça se décide là, ce qu'ils vont faire dans le bureau entre Dr Arruda, M. Legault et son équipe. Ça se décide sans notes, là. Pas de misère à penser ça.
Ben, écoute, Patrick, ça serait un drame et ça serait une autre preuve de l'incompétence relative du gouvernement dans ce domaine-là. Et il y en a plusieurs éléments qui permettent de pointer vers un certain nombre d'incompétences, puis de peut-être que c'est le sens de l'urgence qui fait que ça va trop vite, puis qu'on n'a pas le temps, par exemple, de faire des rapports quotidiens sur les contacts et les déclarations pour savoir où sont chacun des foyers d'infection. Et ça se fait un peu partout dans le monde. La divulgation des foyers d'infection sont connus, alors que nous, non. Une fois de temps en temps, on obtient quelque chose dans un des rapports des points de presse, mais c'est pas systématique. Par exemple, lorsqu'on a le chiffre, on n'a pas, bon, ben, il y en a 11 à telle place, on les a par région. Mais après ça, est-ce que c'est des jeunes, est-ce que c'est des vieux, est-ce que c'est des écoles, est-ce que c'est des bureaux, est-ce que c'est des bars, est-ce que c'est des restaurants, est-ce que c'est dehors, est-ce que c'est en dedans? Il y a pas ce...
Puis Luc, pas juste ça, tu sais, c'est une chose de dire, il y en a 27 sur 60 dans un restaurant. On devrait même pouvoir savoir dans quel restaurant. T'sais, si t'es passé par là, ben, tu peux appeler la santé publique ou tu peux aller te faire tester. Il y a une telle culture du secret dans la divulgation des données au Québec et des informations que même ça, ça semble être secret.
Mais je pense qu'ils sont aussi... Je ne suis pas certain que c'est voulu pour... que le secret est voulu. Je pense que c'est de la désorganisation. Je pense que les personnes qui appellent pour les contacts sont pas assez nombreuses, appellent trop tard, rejoignent pas le monde. Et là, ça donne des rapports complètement incomplets. Fait qu'on veut pas les montrer parce qu'on est gêné. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup aussi de l'incompétence et du manque d'efficacité, du manque de personnel qui fait que, en bout de ligne, si on les montrait, ces données-là, ça ferait peut-être un peu peur. Et parce que, tu sais, regarde là, ce qui est ressorti dans les dernières semaines sur le fonctionnement du système. As-tu vu la lettre du père là, qui a appelé trois intervenants de la santé publique pour savoir s'il devait s'isoler parce que sa fille avait été déclarée positive? Il a fait une lettre à la presse aujourd'hui. Donc, il appelle à une première intervenante, il dit « Bon, ben moi, ma fille a été déclarée positive, est-ce que je peux retourner au travail? » Et il sait la réponse. La réponse, c'est non. Si tu étais en contact avec une personne qui est positive, tu dois aller te faire tester et attendre le résultat. Or, lui, son maudit résultat n'arrive pas. Alors, il s'impatiente. Et la personne lui répond « Oui, vous pouvez retourner au travail. » Il sait que c'est faux. Alors, il appelle un deuxième intervenant. Le deuxième intervenant lui dit aussi ça. Vous pouvez retourner au travail. Ça contredit complètement les directives qui sont données par la santé publique. Alors, il appelle le patron de cette unité-là. Et la personne lui dit encore la même chose. Donc, on a un problème de communication au sein même d'une unité de traçage de contact où il ne donne pas la bonne réponse par rapport à un document qui est facile à comprendre puis qui est public sur les comportements qu'on doit adopter lorsqu'on est déclaré positif. C'est gênant. C'est de la grosse incompétence. Même grosse incompétence qu'on a vue dans les témoignages sur la circulation qui a continué entre les établissements pendant tout le mois de septembre, alors que M. Arruda et M. Legault avaient dit non, il n'y en aura plus de circulation entre les établissements.
Mais ça, Luc, là, sur la circulation des infirmières, des préposés, c'est-tu quoi? Ils peuvent pas le livrer. Je pense que Monsieur Dubé est de bonne foi.
C'est correct.
Il sait que, regarde, d'un point de vue de propagation, faut pas que tu fasses ça. Tu peux pas le livrer. Il n'y a pas assez de monde.
Ben écoute, c'est pareil pour les traçages. C'est pareil pour le traçage. Ils sont pas capables de livrer. Ils demandent, par exemple, aux personnes qui ont été touchées, vous contactez vos proches parce que nous, ça se peut que ça nous prenne un peu de temps pour les contacter. Et dans la lettre de ce monsieur, la jeune fille a appelé ses proches qui ont refusé d'obtempérer et ça a pris quelques jours, 3 jours pour que la santé publique les contacte. Et là, peut-être qu'ils ont obtempéré, on ne le sait pas. Mais pendant 3 jours, ces personnes-là se promènent. Et donc, ça, ce sont des facteurs d'incompétence. Ils sont nombreux. La recommandation, on a eu des événements comme ça, on ne va pas remonter à Mathusalem, mais rappelle-toi les recommandations sur le non-port du masque, puis les tests aussi. Des tests où on disait pas besoin de tester si vous n'êtes pas de l'étranger, alors que c'était faux. On l'a vu, les deux reportages de JE et d'enquête qui ont montré l'ensemble des erreurs qu'il y a eu au début du processus. Bon, alors on a eu beaucoup d'incompétence. Est-ce qu'on en a encore? Est-ce que c'est ça qui explique qu'on a plus que 2 fois plus de morts que l'Ontario, puis qu'on est obligé aujourd'hui d'aller dans des mesures qu'on peut juger extrêmes, qui vont faire très, très, très mal à la culture, au cinéma, évidemment au bar et au restaurant, mais aussi au cinéma, au musée, aux églises. Les églises, on n'en parle pas. 25 personnes dans une église, ça fait pas vivre une église, là. Et ils vivent de la quête, les églises, là. Alors, l'oratoire Saint-Joseph est en faillite. Technique. Mais tout ça, là, c'est des grosses décisions avec des gros impacts. On nous dit, faites-vous-en pas, c'est juste 28 jours. J'ai hâte de voir si c'est juste 28 jours. Parce que si c'est 28 plus 28, 56, puis un autre 28 après, mais ça se peut qu'il y ait la moitié des restaurants qui fassent faillite. Alors là, on peut se poser la question, sommes-nous compétents? Est-ce que la santé publique est compétente? Est-ce qu'elle a assez de monde pour travailler? Est-ce que le premier ministre lui a donné toutes les ressources? Sommes-nous compétents? Première question. Deuxième question, est-ce que c'est lié à notre culture? Il y a un très bon article qui est sorti dans Le Devoir sur la vallée du Rio Grande, c'est dans Haut-Texas. Ils ont 3 fois plus de morts que nous par habitant. Alors, nous, on est dans les tops mondiaux, là. Eux, ils en ont 3 fois plus que nous. Parce que une culture du rassemblement. Ce sont beaucoup de Latinos, ils vivent en famille, plusieurs dans une même maison, des gros rassemblements pour les funérailles. Ils racontent par exemple dans cet article qu'un père a été enterré dans un cémetière avec une énorme foule qui est venue l'accompagner. 3 semaines plus tard, c'était les enfants de cette énorme foule qui sont aussi décédés. Donc, une culture du rassemblement qui fait que c'est différent pour ce groupe-là de d'autres groupes aux États-Unis. C'est une autre piste de réflexion. Puis moi, je peux te le dire parce que j'ai fait visiter le plateau Mont-Royal à des politiciens, des urbanistes de Toronto puis Vancouver, puis ils prenaient des photos des gens qui étaient dans les parcs comme s'ils avaient été au parc safari africain. Ils disaient « My God, le monde pique-nique dans le parc! » Puis il en revenait pas du monde qu'il y avait là. Il dit « Et où la mer? » On voit le monde sur la plage, mais il n'y a pas de mer. Il n'y a pas de mer, c'est juste les gens qui se rassemblent pour être proches les uns des autres dans un parc. Alors, il y a aussi cette culture-là. Alors, est-ce que c'est culturel ou est-ce que c'est de l'incompétence? J'ai hâte qu'on le sache, parce que les décisions sont gravissimes.
On s'en reparle. Merci, Luc.
Merci à toi.
Juste avant de la pause, juste une mini observation. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aiment le docteur Arruda. C'est un personnage extrêmement sympathique. C'est pas de ça dont on parle. On parle de la science, on parle des faits. Puis le docteur Arruda, là, il y a quelques temps, je ne me rappelle pas exactement quand, a émis une hypothèse comme ça, pensé à voix haute, en plein point de presse. Et il a dit, écoutez, peut-être que ici, la souche du virus est différente d'ailleurs. Et là, c'est quand même le directeur de la santé publique québécoise. C'est la voix de la science à la table à conférence de presse et dans les coulisses avec le premier ministre, pas n'importe qui. Et là, il y a des chercheurs de McGill qui sont sortis tout de suite pour dire, excusez-nous, là, mais non. On a étudié le génome du virus, puis c'est le même que chez nos voisins canadiens. Donc, ceci ne peut pas expliquer cela. Moi, je trouve ça inquiétant des fois de voir Dr Arruda de lancer des choses comme ça et que ce ne soit pas fondé sur les faits ou qu'il n'y ait pas de données scientifiques en arrière de ça. Je trouve ça inquiétant. C'est lui, le gars de science, devrait arriver avec des données.